Bonjour Stéphanie Walters, vous êtes chercheuse principale à l'Institut sud-africain des relations internationales basé en Afrique du Sud. Le 42e sommet de la SADC a pris fin ici à Kinshasa avec, entre autres décisions, l'élection du président Félix Tshisekedi comme nouveau président de l'organisation. Quel est votre commentaire?
C'est une question assez automatique au niveau de la SADC, c'est-à-dire qu'il y a une rotation annuelle entre les différents présidents des pays membres de la SADC qui prennent la tête de l'organisation. Et donc là, c'est le président Tshisekedi qui aura ce poste pendant un an.
Vous parlez d'une présidence rotative. Est-ce que vu de Kinshasa, vu de la RDC, est-ce que les Congolais, est-ce que peut-on attendre des bénéfices par rapport à cette élection du président Tshisekedi à la tête de la SADC?
Oui, je crois que même si c'est une présidence qui est rotationnelle, c'est sûr que quand tu as un président, il peut imprimer un peu son agenda sur les différentes discussions et il peut surtout, dans le contexte dans lequel se trouve actuellement la RDC, rappeler aux autres États membres les questions d'insécurité qui sont d'actualité en RDC. Donc, il peut utiliser ce poste-là pour rappeler à tout le monde que le pays a besoin de soutien. Ça, c'est sûr qu'il pourra faire ça pendant sa présidence.
Sur le plan sécuritaire, effectivement, le sommet a exprimé sa préoccupation et sa solidarité sur les derniers développements sécuritaires dans l'Est de la RDC et l'organisation voudrait explorer toutes les voies possibles pour soutenir les efforts visant à améliorer la situation sécuritaire. Pensez-vous à l'éventualité d'une approche militaire comme cela a été fait en 1998?
En fait, nous avons depuis 2013 une présence de trois pays SADC au sein de la brigade d'intervention qui est attachée à la MONUSCO. Et ce sont les soldats de la Tanzanie, du Malawi et de l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi a fait mention de ces trois pays et les a remerciés pour leur soutien à la sécurité en RDC. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons toujours une présence de ces trois pays et donc une implication directe de la SADC dans les questions de sécurité en RDC. Par contre, je voudrais dire que je crois que même si on a mis dans le communiqué final une mention de l'insécurité et surtout de la situation avec le M23, le sommet n'a pas exprimé clairement, n'a pas condamné le rôle du Rwanda, ce qui est quand même étonnant. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un peu de réticence par rapport à la situation actuelle. On a très souvent parlé d'une certaine froideur depuis que Tshisekedi a amené la RDC au sein de la communauté est-africaine. Donc, quelque part dans ce communiqué, je lis un peu de distance entre les implications du passé et aujourd'hui.
Et comment voyez-vous, à partir de là où vous êtes, la décision des pays de la East African Community à déployer une force régionale à l'est de la RDC?
Bon, je crois que nous posons tous beaucoup de questions par rapport à cette force. Cette force sera constituée par quel pays, financée par quel, avec quels objectifs, quelle durée opérationnelle. Aujourd'hui, on annonce l'arrivée des troupes burundaises sous égide de cette force régionale, mais on sait que depuis un certain temps, ces troupes sont déjà présentes en RDC, informellement. Et puis, à part le Burundi, qui d'autre va s'impliquer? Et est-ce que réellement cela a un sens de déployer des troupes des pays qui sont impliqués dans l'instabilité de l'Est de la RDC dans une force régionale? Donc, à mon avis, il y a beaucoup plus de questions que de réponses par rapport à cette force. Et donc, il y a quand même un peu de doute, je crois aussi, un peu de scepticisme de la part de la population par rapport à cette force-là.
Oui, à part le Burundi, il y a déjà aussi les Ougandais qui sont dans la partie, le Grand Nord du Nord Kivu et l'Ituri depuis quelques mois déjà.
Oui, justement, absolument, vous avez raison. Et puis, la question qu'on se pose, c'est que si déjà on a cette présence-là, qui est effectivement le résultat des relations et des ententes bilatérales entre la RDC et l'Ouganda d'un côté et la RDC et le Burundi d'un autre côté, comment est-ce que cela va cadrer avec la force qui a été annoncée par Kenyatta? On n'a pas trop d'informations là-dessus. Et je crois qu'il faut aussi dire que même s'il y a un processus politique au niveau de Nairobi qui implique les différents groupes rebelles congolaises, à mon avis, il faut lier à toute solution militaire, à toute déploiement militaire, une discussion à très haut niveau, c'est-à-dire au niveau des présidents dans toute la région pour résoudre une fois pour toutes les tensions et les différences entre les différents pays. Ça sert à rien d'essayer de résoudre ça uniquement par la voie militaire. Le problème est clairement régional, il est clairement entre les différents pays et pas uniquement entre Congolais.
Sur le plan économique, une large opinion estime que très souvent, toutes les organisations régionales africaines auxquelles la RDC adhère ont beaucoup du mal à relever les défis, notamment économiques et sécuritaires. Qu'en pensez-vous?
Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, avec la RDC encore dans un état très précaire par rapport à sa sécurité, même domestiquement, il est difficile de vraiment changer et d'améliorer l'économie du pays, qui est tout le temps, le budget national est tout le temps occupé à financer des opérations militaires. Et évidemment, les investisseurs sont un peu réticents quand il s'agit d'investir dans un pays qui est instable. Par contre, je crois que il y a avec la SADC, il y a des liens, surtout avec le Katanga, parce que c'est cette zone-là qui fait partie géographiquement de l'Afrique australe. Je crois aussi que l'entrée de la RDC dans la communauté est-africaine va quand même porter des fruits. Et c'est aussi une grande raison pour laquelle il faut se mettre d'accord une fois pour toutes avec les voisins et gérer de bonne foi les relations dans la région. Parce que là, il y a l'infrastructure qui est là, il y a les routes, il y a le marché, il y a des différents marchés, et puis il y a la voie vers la mer avec la Tanzanie et le Kenya. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités économiques, surtout entre la RDC, l'est de la RDC et la communauté est-africaine.
Dernière question, en tant que chercheuse, comment la RDC peut-elle tirer profit et aussi faire profiter à la SADC son potentiel économique et géostratégique?
La RDC est le plus grand pays dans la SADC. Il a un énorme potentiel sur plusieurs plans énergétiques, miniers, agriculturels. Moi, je crois que le jour où le Congo va retrouver sa stabilité une fois pour toutes, ça sera un pays où beaucoup de gens vont beaucoup s'intéresser où l'investissement, que ce soit pour les pays de l'Afrique australe, sera certainement très intéressant, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la RDC a été acceptée au sein de la SADC. C'est un marché, mais c'est aussi un pays qui a beaucoup à donner. Et donc, je crois que ça dépend aussi quand même du développement du reste de la région, pas uniquement de la RDC, de l'Angola, de la Zambie, du Zimbabwe. Ce sont tous des pays qui sont encore en train de se battre pour leur développement. Et il y a vraiment l'Afrique australe. En fait, dans l'Afrique australe, il y a surtout l'Afrique du Sud qui a une économie très, très forte, le Botswana, la Namibie aussi. Donc, voilà. C'est une région qui est encore en voie de développement.
Stéphanie Walters, je rappelle que vous êtes chercheuse principale à l'Institut sud-africain de relations internationales de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview.